Dans les Écritures qui se rapporte à Pâques. C'est un mot que l'on retrouve très souvent dans les Écritures et qui exprime bien la réalité de Pâques. Si nous voulons que Pâques soit vraiment un temps de réjouissance, de victoire, de triomphe, de joie, car Pâques c'est tout cela, vous êtes d'accord avec moi? Car il est vivant, même s'il y a 2000 ans, il est mort pour nous, il est vivant, alléluia, il est vivant, alléluia, il est vivant. Pâques c'est la résurrection, la croix de Jésus. Et la résurrection de Jésus. Mais pour bien saisir ce message de Pâques, nous allons voir où la Pâque a commencé. Il est toujours bon de voir dans les Écritures l'origine d'une vérité, l'origine d'une fête, car c'est à l'origine que se trouve en germe toutes les vérités importantes concernant cette réalité de Pâques, tout spécialement. Le mot sur lequel je voudrais dire quelques parole maintenant, c'est ce mot-clé dans les Écritures, la rédemption. Que signifie ce mot de rédemption? Si nous en saisissons le sens, nous ne pouvons pas rester les mêmes personnes. Amen. Qu'est-ce que la rédemption? Nous avons été rachetés. Dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 1 et au verset 7, il est dit « En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. » Que signifie la rédemption? Que signifie la rédemption par son sang? Nous allons essayer de découvrir quelques vérités capitales dans ce domaine-là. Et je suis sûr qu'avec ce contexte de cette réalité de la rédemption, Dieu va nous donner de passer des fêtes de Pâques dans une joie extraordinaire. Amen. Alléluia. En lui, nous avons la rédemption. Et le mot de Pâques, vous savez, se trouve premièrement dans le livre d'Exode. Dans l'Exode, au chapitre 12, c'est là que nous trouvons cette réalité. Exode, chapitre 12, je lis le verset 13. « Je suis l'Éternel, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise. » Le mot « Pâques » signifie littéralement « action de passer ». Action de passer par-dessus. Donc, c'est là, dans ce contexte de l'histoire d'Israël, esclave en Égypte, que nous découvrons cette vérité-là. Alors, j'aimerais vous donner quatre vérités importantes concernant la rédemption en Jésus-Christ. D'ailleurs, le mot « rédemption » veut dire « payer, libérer quelqu'un par le paiement d'une rançon ». Je répète, le mot « rédemption »,« racheter » veut dire « libérer quelqu'un par le paiement d'une rançon ». On pourrait encore donner une autre explication. C'est le mot « rédemption » veut dire, dans le texte original, c'est la délivrance de l'esclavage, la délivrance d'un esclave, de l'esclavage d'un maître pour appartenir à un autre maître par le paiement d'une rançon. Je répète cette phrase parce que dans cette phrase-là, je vais retirer quatre vérités importantes que nous devons connaître pour comprendre la Pâque, pour comprendre la croix de Jésus et pour comprendre la résurrection de Jésus. La rédemption, c'est ceci, c'est la délivrance d'un esclave, de l'esclavage d'un maître, pour appartenir à un autre maître, par le paiement d'une rançon. Et ce que je dis là se vérifie tout à fait par la vie d'Israël en Égypte, lorsque Israël était esclave en Égypte. Alors la première vérité est celle-ci. Je vais vous donner les quatre pensées d'abord concernant la rédemption. Les quatre vérités sont celles-ci. Premièrement, nous allons voir le besoin de la rédemption. Deuxièmement, nous allons voir le prix de la rédemption. Troisièmement, les fruits de la rédemption. Et quatrièmement, le but de la rédemption. Il y a là tout un message capital pour les enfants de Dieu. La rédemption, en somme, si on veut résumer brièvement la chose, c'est ceci, c'est la libération de l'esclavage. Alléluia! Le message de Pâques, c'est cela, c'est la libération de l'esclavage. Ce sont les esclaves qui sont rendus libres. Alléluia! Gloire au Seigneur! C'est cela la rédemption. C'est un message de délivrance de notre esclavage. Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Alléluia! Alors le premier point pour comprendre la rédemption est celui-ci, le besoin de la rédemption. Pourquoi cette rédemption? Pourquoi ce rachat? Pourquoi? À cause de l'esclavage de l'homme. Parce que l'homme est esclave. Et l'image que nous avons sous les yeux, c'est l'image du peuple d'Israël qui était esclave en Égypte. Voyez-vous, pour qu'il puisse expérimenter et apprécier cette délivrance extraordinaire, Israël a dû passer d'abord par cette période d'esclavage. Et dans Exode chapitre 2, au verset 23, je lis ceci. « Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. » La première vérité de la rédemption, c'est le besoin de la rédemption qui est l'esclavage de l'homme. Au verset 7 du chapitre 3, il est dit ceci, je lis, « L'Éternel dit, en parlant à Moïse, qui devait l'envoyer pour aller libérer Israël, l'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font monter ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs, je suis descendu pour le délivrer. » Gloire à Dieu! Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Alléluia! Voilà la Pâque. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Amen. Voyez-vous ici, la première vérité importante pour réaliser le grand salut que Dieu nous a accordé, nous devons réaliser le grand esclavage dans lequel nous étions avant de connaître le Seigneur. Amen. Il y a là une vérité capitale, mes amis. Il y a des gens, lorsque vous leur demandez « Êtes-vous sauvés ?», ils vous diront « Oui, je suis sauvé. » Mais tu es sauvé de quoi ? Ben, je ne sais pas. Ils sont sauvés, mais ils ne savent pas de quoi. Voyez-vous, c'est un salut qui n'est pas fondé sur une délivrance passée. C'est tout simplement une croyance en Dieu sans avoir réalisé l'esclavage dans lequel nous étions avant de venir à Jésus. Et il y a trop de fois aujourd'hui qui sont ainsi. On croit en Dieu, on dit « Jésus est mon sauveur », mais on ne sait même pas de quoi il nous a sauvés. On dit qu'il nous a sauvés, mais on vit encore dans le péché, on ment encore, on vole encore, on commet encore adultère et on dit que Jésus est mon sauveur et on dit je crois en Dieu, mais je crois au Seigneur. Ne me prenez quand même pas pour un païen. Je ne suis quand même pas un païen. Voyez-vous, on dit on croit en Dieu. On dit qu'on croit même au sacrifice de Jésus. mais la vie n'est pas changée. Mais la personne est toujours la même. Dites, est-ce que ces personnes n'existent pas? Ces personnes sont malheureusement légion. Que de personnes disent qu'elles croient en Dieu ou en Jésus, mais qu'elles restent toujours les mêmes personnes. Qu'est-ce qu'il manque à cela? Il manque une vérité importante. Avant qu'Israël expérimente sa délivrance, il fallait qu'Israël réalise profondément son esclavage en Égypte. Amen. Et combien de temps sont-ils restés en Égypte? 430 ans. Vous vous rendez compte? 430 ans dans l'esclavage. Vous pensez bien qu'après un temps pareil, la souffrance était grande. Pourquoi pas avant? Peut-être parce qu'ils se sentaient bien en Égypte. Parce que plus tard, quand nous lisons les Écritures, certains voulaient retourner en Égypte pour manger les concombres et les oignons d'Égypte. Pourquoi ne sont-ils pas sortis avant? Peut-être parce qu'ils se sentaient bien là-bas. Et Dieu ne fait jamais rien contre notre volonté. Si nous ne voulons pas changer de vie, Dieu ne nous forcera jamais, n'est-ce pas vrai? Dieu ne force jamais personne à changer quelqu'un. Si tu n'es pas décidé à changer, mon ami, si tu te trouves bien dans ton esclavage en Égypte, sous la main de l'oppresseur, si des concombres et des oignons te suffisent, alors tu pourras rester longtemps. Tu pourras rester longtemps en Égypte. Mais Dieu ne pourra jamais rien faire. Il est arrivé à un moment donné dans la vie d'Israël où ils ont dit, maintenant c'est fini, on ne peut plus rester comme cela. 430 ans. Ils en étaient arrivés à un point où ils ont dit, maintenant c'est fini. Nous, en haut éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, envoie-nous un libérateur. Amen. Nous en avons assez. Nous en avons assez de cette vie misérable et de cet esclavage. Nous voulons changer. Alléluia. Nous voulons changer. Et à ce moment-là, Dieu a entendu leur cri. Ah, vous voulez changer? Alors, si vous voulez changer, quelque chose va changer, c'est vrai. Maintenant, je vous prépare un libérateur. Maintenant, je vais vous envoyer un homme, Moïse. Il viendra vous délivrer. Mais Dieu ne pouvait rien faire tant que Israël n'était pas dégoûté de son esclavage. Et vous savez, bien souvent, nous disons, oh, pourquoi Dieu n'intervient pas dans nos vies? Pourquoi Dieu ne fait pas ceci dans nos vies? Parce que finalement, dans le fond de notre cœur, nous ne sommes pas encore dégoûtés de notre esclavage. Nous nous plaisons dans notre esclavage. Nous sommes dans une prison et nous avons mis beaucoup de belles fleurs dans nos prisons. Nous avons mis des fleurs aux barreaux. Nous avons bien arrangé notre prison et nous disons, mais finalement, on n'est pas si mal que ça, c'est pas mal. Et nous nous sommes habitués à cette vie-là. Et naturellement, il n'y a pas de délivrance. Alors le premier point important, le besoin de la rédemption. Si nous voulons expérimenter un grand salut, nous devons réaliser notre grand esclavage. Amen. Qui est celui qui aime le plus le Seigneur? C'est celui à qui la parole de Dieu dit, à qui il a été beaucoup pardonné. Vous êtes d'accord avec moi? À qui il a été beaucoup pardonné? Certains considèrent leur salut, vous savez, si on peut donner des prix, on ne peut pas comparer donner des prix, n'est-ce pas? Mais on peut dire, entendre certains, avoir vivre certains chrétiens, leur salut coûte à peu près 10 francs. 10 francs. Oui, Jésus m'a sauvé, gloire à Dieu, alléluia. Mais si on renie le Seigneur, devant une jeune fille, devant un jeune homme, si on l'abandonne, si on le déshonore, cela, ça fait rien, c'est pas grave. Vous voyez, c'est un petit salut qui vaut 10 francs. Et alors on aime le Seigneur, oui, mais du bout des lèvres. Il n'y a rien qui vient du fond du cœur. Mais d'autres considèrent la valeur de leur salut à 10 milliards de francs. Vous vous rendez compte ? Dieu m'a pardonné. Le pardon de Dieu à mon égard correspond à une remise de dette de 10 milliards. Jamais j'aurais pu payer cette dette devant Dieu. Mais Dieu, dans son grand amour, m'a libéré de cela. J'avais une grande dette. J'avais commis de grands péchés. J'étais dans un grand esclavage. Mais Dieu soit béni. Son grand amour m'a tout pardonné. Oh, combien je l'aime, parce qu'il m'a beaucoup, beaucoup pardonné. Amen. Alléluia. Comment allons-nous fêter Pâques? Nous fêterons Pâques dans une grande joie si nous réalisons combien notre esclavage était grand avant de connaître Christ. Amen. Ça, c'est un point important. Et il a été dit tout à l'heure, lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, Dieu nous révèle qui nous sommes et ce que nous sommes, n'est-ce pas? C'est pourquoi il ne faut pas se cacher dans la présence de Dieu. Si Dieu te parle, et il te parlera pendant ce week-end, ne te cache pas. Ne dis pas, ce n'est rien du tout. Ne dis pas, oh, mais tout le monde fait ce que je fais. Le péché n'est pas aussi grave que cela. Ne dis jamais cela, mon ami. Si Dieu te parle, obéis à sa voix et dis-lui, Seigneur, je suis esclave en Égypte. La main de Pharaon est sur moi. Jour et nuit, je suis tourmenté à cause de mon péché, à cause de ma rébellion et de ma désobéissance. Oh mon Dieu, j'en ai assez. Je veux changer. Je veux sortir de mon esclavage. Alléluia. Mais si tu ne veux pas sortir de ton esclavage, Dieu ne te fera pas sortir. Si tu te plais tel que tu es, alors tes cris ne serviront à rien. Mais si tu veux changer, si tu veux changer, si tu en as assez de ta vie, alors le miracle est possible. Amen. Le libérateur va venir. Gloire à Dieu. Amen. Le besoin de la rédemption, l'esclavage de l'homme. Il n'y a pas un juste, pas même un seul. Nul ne fait le bien. Vous savez, bien souvent, certaines personnes, et tout spécialement les personnes religieuses, pensent qu'elles sont vraiment des gens très très bien devant Dieu. Elles disent, oh mais bon, j'ai peut-être fait quelques péchés, mais quand même, je ne suis pas si mauvais que ça. Et le problème, beaucoup de problèmes dans notre vie proviennent de cela, de ce que nous ne réalisons pas assez qui nous sommes, de ce que nous ne réalisons pas assez combien nous sommes mauvais pour nous détourner une fois pour toutes de nous-mêmes et de ne plus jamais mettre notre confiance dans la chair. Et Dieu veut nous donner de réaliser cela. Amen. Afin que désormais, nos regards ne soient plus sur nous-mêmes. Vous savez, l'homme sans Christ, vous savez ce qu'il est? J'ai noté là beaucoup de choses. L'homme sans Christ, il est injuste. L'homme sans Christ, il est pécheur. Il est désobéissant. Il est enfant du diable. Il est rebelle. Il est ignorant. Il est méchant, tortueux par-dessus tout. Il est sous la domination de Satan. Il est mort spirituellement. Il est perdu. Il est ennemi de Dieu. C'est un esclave. Il est sans Dieu. Il est sans espérance. Il est sans Christ. Voilà ce qu'est un homme sans Dieu, sans la croix de Jésus, sans la rédemption. Vous dites, mais c'est pas possible. Mais alors, c'est pas. Mais qu'est-ce que vous racontez? Non, quand même pas. Vous n'allez quand même pas dire que je suis comme ça. C'est exactement ce que Dieu nous dit. Voilà le portrait de l'homme sans Christ. Dites-moi, lorsque nous réalisons cela, alors, quand nous allons crier pour un libérateur, vous croyez qu'on va crier du bout des lèvres? Alors là, je vous assure, quand on réalise vraiment le mal que nous avons fait, combien nous avons déshonoré Dieu dans notre vie, combien nous avons vécu loin de lui, alors nos prières vont changer. Amen. Et nous allons dire, oh mon Dieu, j'ai honte de moi-même. Oh mon Dieu, quand je vois ce que je suis à tes yeux, combien j'ai honte de moi-même. Je veux changer de vie. J'en ai assez de mon esclavage. Oh Dieu, délivre-moi, pardonne-moi. Je hais mon péché, je hais mes passions, je veux changer. Lorsqu'une telle prière est formulée, Dieu l'exauce toujours. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi nous avons besoin de réaliser qui nous sommes, mes amis. Si nous voulons réaliser qui il est, si nous voulons réaliser combien grand il est, nous devons réaliser combien minus nous sommes, combien pauvres nous sommes. Ceci est important. C'est très important. La Pâque, c'est cela. La Pâque n'est pas la fête de gens religieux, qui se croient meilleurs que les autres. N'est pas la fête de gens qui se croient supérieurs aux autres. La Pâque n'est pas du tout cela. La Pâque, c'est la délivrance des esclaves. Amen. Alléluia. Et si tu ne... Alléluia. C'est la délivrance des esclaves. Gloire à Dieu. Alors quand on réalise son esclavage et quand on en a marre, alors on arrive à la deuxième vérité importante maintenant. Le prix de la rédemption. Comment Israël a été libéré? Vous le savez, il fallait que le sang d'un agneau sans défaut soit sacrifié. Et que ce sang soit posé sur les poteaux et les linteaux de leur maison, n'est-ce pas? Et il fallait donc un sacrifice sanglant. Le prix de la rédemption, c'est le sang versé pour être libéré de cet esclavage. Il ne faut rien de moins que quelqu'un de parfaitement pur vienne à notre secours pour nous délivrer. Il fallait que cet agneau soit sans défaut. Sans défaut. Sinon, alors, aucun animal ne pouvait être sacrifié. Et qui est sans défaut? Qui peut pardonner tes péchés? Qui peut être sacrifié à ta place? Malheureusement, il y a beaucoup de gens encore qui mettent leur confiance dans des hommes, dans des femmes, pour le pardon de leurs péchés. Cela existe encore. Combien de personnes mettent leur confiance dans des hommes et des femmes qui sont pécheurs comme les autres? Mais la parole de Dieu nous révèle que nous avons la rédemption par son sang. Par le sang de Jésus. Et là, nous voyons le prix qui a été payé pour notre délivrance et que nous ne devons surtout pas oublier pendant ces fêtes de Pâques. Si nous voulons jouir et si nous jouissons de la présence de Dieu, c'est surtout et avant tout à cause du sacrifice sanglant de Jésus. Amen. À cause de son sacrifice. Car l'apôtre Pierre lui-même annonce ce sauveur en disant que nous avons été rachetés de la vaine manière que nous avons hérité de nos pères par le sang précieux de Jésus comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Nous avons été rachetés par un agneau sans défaut et sans tache. Et cet agneau, Jean-Baptiste nous dit qui est cette personne. Lorsqu'il vit Jésus passer sur la route, le chemin, il s'est écrié, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Amen. Alléluia. Pour que le sacrifice soit accepté, il y avait plusieurs conditions. Il fallait que, premièrement, cet agneau soit pur et sans tache. Et comme tout le monde a péché, la Bible dit « car tous ont péché », et sont privés de la gloire de Dieu. Tous les hommes, quels qu'ils soient, ont tous péché. Donc ne mettons jamais notre confiance dans un homme pour être pardonné de nos péchés. Dieu n'acceptera jamais cela, n'est-ce pas vrai? Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais il y en a un qui était saint, c'était Jésus. Alléluia! Lui-même le disait quand il était sur la terre, « Qui d'entre vous me convaincra de péché ?» Qui d'entre vous? Personne n'a pu convaincre Jésus de péché. Personne n'a pu dire à Jésus, « Ah, là tu as dit un mensonge. Là tu as eu une attitude qui n'était pas la bonne. Ce que tu as fait n'était pas bien. » Personne. Tout le monde avait la bouche fermée devant le Seigneur. On se moquait de lui. On le rejetait. Mais personne ne pouvait l'accuser de quoi que ce soit. N'a pu convaincre Jésus de péché. Personne n'a pu dire à Jésus, « Ah, là tu as dit un mensonge. Là tu as eu une attitude qui n'était pas la bonne. Ce que tu as fait n'était pas bien. » Personne. Tout le monde avait la bouche fermée devant le Seigneur. On se moquait de lui. On le rejetait. Mais personne ne pouvait l'accuser de quoi que ce soit. Amen. Il était le saint et le juste. Et il fallait que ce sacrifice soit saint, soit juste. Sinon, il n'y avait pas de pardon pour nos péchés. Amen. La sainteté de Jésus. La sainteté de Jésus. Vous savez que les anges l'ont confessé. Les anges ont confessé la sainteté de Jésus. Quand l'ange Gabriel est venu vers Marie, et il lui a dit, « Le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu, le saint enfant. » Les anges ont proclamé la sainteté de Jésus. Amen. Ont-ils proclamé la sainteté d'une autre personne, les anges? Jamais, jamais, jamais les anges n'ont proclamé la sainteté de quelqu'un d'autre. Ni d'un homme, ni d'une femme, jamais, car tous ont péché. Les anges ont confessé cela. Le Saint-Esprit aussi a proclamé que Jésus est saint. Dans l'Épître aux Hébreux, il nous est dit que nous avons un grand souverain sacrificateur. Il est saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et parfait pour l'éternité. Alléluia! Alléluia! Il était lui le juste qui est mort pour des injustes. Mes amis, les anges ont confessé sa sainteté. Mon ami, le Saint-Esprit a confessé la sainteté de Jésus. Les apôtres ont confessé aussi que Jésus était saint. Pierre aussi s'est écrié devant la multitude des enfants d'Israël qui étaient là. Lorsqu'un miracle avait été accompli, il leur a dit, « Vous avez renié le saint et le juste. » Alléluia. Vous l'avez renié, le saint et le juste. Celui que vous avez renié n'est pas n'importe qui. C'est l'agneau de Dieu qui ôte votre péché. C'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché d'Israël. C'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Et c'est cette parole, ces paroles qui ont touché les Israéliens, les Juifs de cette époque. Vous avez renié le saint et le juste. Mes amis, Jésus est saint. Il est l'agneau parfait. Alléluia. Quatrièmement, ses ennemis même ont confessé. Ses ennemis ont confessé que Jésus était saint. Avez-vous pensé à cela? Même ses ennemis, le centenier devant la croix, à un moment donné, dans l'évangile de Luc, il est dit, quand le centenier vit comment Jésus est mort, il s'est écrié, assurément, cet homme est le Fils de Dieu, cet homme est juste. Jamais homme n'est mort comme cet homme. Voilà ce que les ennemis de Jésus ont confessé. Mes amis, Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte ton péché parce qu'il est le saint. Lui seul peut te purifier entièrement. Alléluia. Et s'il te purifie, tu seras aussi blanc que la neige. Tu seras aussi pur que Jésus. Son sang peut te purifier. Alléluia. Ne méprise pas le sang de Jésus. Ne méprise pas le sang du Fils de Dieu. Ne méprise pas le sang du saint et du juste. La Pâque, c'est cela. Amen. Les démons aussi ont confessé que Jésus est le saint. Voyez-vous, les démons, un jour que Jésus chassait des démons, un démon a réagi en disant, « Je sais qui tu es. Je sais qui tu es. Ne me tourmente pas, Valentin. Ne me tourmente pas, Valentin. Je sais qui tu es. Tu es le saint de Dieu. » Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Tu es venu pour nous perdre. Et là, le démon pensait à la croix de Jésus. Car le saint était là pour mourir à la place des pécheurs. Amen. Alléluia. Le prix de notre rédemption, mes amis, quelqu'un l'a payé, c'est Jésus, parce qu'il est saint. Et aussi, il devait être obéissant à son Père. Il était saint, mais il était obéissant. Vous savez, si Jésus avait désobéi, est-ce qu'il aurait pu être notre sauveur? Jamais. Parce que l'homme par nature est rebelle. L'homme par nature est rebelle. Et parce que l'homme a été désobéissant à la volonté de Dieu, au commandement de Dieu. L'homme a été séparé de Dieu. Il fallait que Jésus, s'il voulait sauver, te sauver, me sauver, il fallait qu'il soit obéissant jusqu'à la fin. Et la parole de Dieu nous dit qu'il a été obéissant jusqu'à la mort. Amen. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Il a été jusqu'à la mort obéissant, comme un agneau, sans défense, devant celui qu'on le tend. Il n'a point ouvert la bouche. Il s'est livré lui-même en sacrifice pour nous. Il a été obéissant, même jusqu'à la mort de la croix. Alléluia. Il fallait aussi qu'il accepte de se sacrifier volontairement. Car si Jésus n'avait pas accepté de se sacrifier volontairement, il n'aurait pas été notre sauveur, n'est-ce pas? Jésus lui-même a dit, « Personne ne m'ôte la vie, je la donne de moi-même. » Personne, personne. Lorsque on conduisait Jésus à la croix, il était le maître, il était le maître. Il n'était pas une victime, il n'était pas un martyr, il était le maître. Quand il s'est écrié à ceux qui venaient le chercher, avec des armes, « Qui cherchez-vous ?» Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont tous tombés par terre. Il aurait pu fuir, vous êtes d'accord avec moi? S'il était une victime, il aurait pu fuir à ce moment-là. Mais il est resté le même. Il n'a pas fui. C'est lui qui donnait sa vie. Ce ne sont pas les autres qui venaient lui prendre sa vie. Mais c'est lui qui venait donner la sienne. Alléluia! Oh, merci Seigneur de ne pas avoir fui à ce moment-là. De ne pas avoir sauvé ta vie. Sinon, nous serions perdus pour l'éternité. Merci, Seigneur, d'avoir donné ta vie pour que je sois sauvé pour l'éternité. Amen. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il a donné sa vie volontairement pour chacun d'entre nous. Voilà pourquoi il a pu payer toute notre dette. Amen. Et que maintenant, son sacrifice a été accepté par son Père. Alléluia. Son sacrifice a été accepté. Je lisais, on lisait ce matin dans notre méditation, l'histoire d'un prédicateur qui un jour était en vacances avec ses enfants. Et pendant qu'ils étaient en vacances, une abeille tournait autour de sa fille qui avait 8 ans. Et l'abeille essayait bien sûr de piquer l'enfant. Le papa voyant cela a mis sa main autour de l'enfant, comme cela, pour protéger son enfant. Et à un moment donné, l'abeille a planté son aiguillon dans le bras du papa. Et le papa a dit à son enfant, « Ma fille, ne crains plus maintenant. L'aiguillon, c'est moi qui l'ai reçu. Tu n'as plus rien à craindre. J'ai reçu l'aiguillon. J'ai reçu le coup mortel. Pas mortel. Mais j'ai reçu le coup. Toi, ne crains plus rien maintenant. » Et Dieu fait la même chose avec chacun d'entre nous. Il met sa main d'amour autour de ton épaule.
Quels sont les 5 caractères?
Un mari qui pleure. Tu as tellement peur que ton épouse s'en aille. Te laisse avec les enfants. J'ai vu tes pleurs. J'ai entendu tes cris, mon fils. Ne perds point courage. Quand les vagues sont déchaînées autour de toi. Je suis celui qui veille sur ta vie et sur la vie de ceux que je t'ai donné. Ne crains point, je suis une tour forte pour toi, une haute forteresse. Tu n'as rien à craindre. votre cœur se trouve. Si parfois vous ne savez plus de quel côté regarder, si parfois votre cœur est désemparé, si parfois votre cœur est désemparé, mon peuple, beaucoup d'entre vous sont troublés, troublés à cause de la situation de ce monde, troublés à cause de l'état de l'Église, troublés à cause de l'état déplorable de vos familles, de vos enfants. Mais moi, je viens aujourd'hui. Aujourd'hui, dit le Seigneur, je viens donner la paix à ceux qui ont le cœur troublé. Mes enfants, dit le Seigneur, ne vous troublez point, car en ces temps de la fin, il faut qu'il en soit ainsi. Mais je vous ai promis, dit le Seigneur, et cette promesse est plus que jamais réelle. Ne vous ai-je pas dit, je suis tous les jours avec vous? Ne vous ai-je pas dit cela? Tous les jours, et je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Que ma présence, donc, vous rassure, peuple de Dieu. Seigneur tous ensemble. Alléluia. Levons-nous dans sa présence 5 minutes. Alléluia. Pour adorer le Seigneur de tout notre cœur. Alléluia, il est là, il est présent. Oh, nous nous courbons devant toi, majesté divine.
Quels sont les 5 caractères?
J'ai déversé en toi ma paix. Toi, cœur troublé, reçois ma paix. Et sois délivré de ton angoisse. Sois délivré de tes insomnies. Seulement quand tu te couches, n'oublie pas de me remettre ta vie et de dire: je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure, dans mon corps, dans mon organisme, dans ma famille, dans mon travail, dans tout ce qui m'environne. Tu me donnes ta paix et je me veux m'endormir dans tes bras comme un bébé. N'oublie pas de faire cela le soir et tu dormiras en paix. Alléluia.
Oh, je suis content. ta sainteté. Quand je contemple ta beauté, toutes choses pâlissent à ta lumière.
Ta sainteté.